Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou sur le 101.7 à Lucandiwa. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui au studio, nous sommes en compagnie de Christophe Morantin. Bonjour.
Bonjour.
Christophe Morantin, vous êtes co-secrétaire et membre du comité départemental de la Confédération Paysanne du département de la Drôme.
C'est ça.
Et vous êtes ici pour nous parler d'un cas de figure qui s'est présenté dans le coin, notamment du côté de Léoncelle, aux alentours de la réserve de la vie sauvage créée par l'ASPAS. C'est les 2 dernières années, je crois bien. C'est en 2019 que s'est concrétisé cet espace. Il y a eu un regroupement de donateurs qui ont permis cette acquisition de territoire. Alors, il s'agit de 500 hectares, approximativement, 497, je crois, précisément. Et par courrier, donc, vous nous avez signé. Nous avez signalé, pour vous, ce qui semble être une incohérence, l'interdiction pour un paysan qui pratiquait depuis plusieurs années le fauchage de son fourrage pour le bétail. Et cette année, il s'est vu notifier une interdiction de procéder ainsi.
Oui. Alors, pour être quand même un peu plus précis sur cette histoire, en fait, quand on a eu vent de la création de la réserve de vie sauvage par l'ASPAS à Léoncelle, parce qu'ils ont d'autres réserves de vie sauvage qui ont été créées, sur lesquelles on ne s'est pas forcément manifesté parce qu'il n'y avait pas lieu. Et en fait, là, on a commencé à s'intéresser ou à se préoccuper en tout cas de la question parce que on a su qu'il y avait un paysan qui fauchait des terres dans le périmètre de la... À l'époque, elle n'était pas encore créée, mais dans le périmètre de cette réserve. Et du coup, en tant que syndicat paysan, voilà, on a creusé un petit peu pour savoir ce qui allait en être de sa situation. Et donc, on a rencontré... on s'est d'abord un peu exprimé comme ça sur les doutes qu'on avait par rapport à ce projet-là et le fait que ça risquait de mettre en danger l'activité de ce paysan. Par la suite, on a rencontré l'ASPAS pour leur exprimer pourquoi on émettait des doutes. Ça a duré un peu comme ça. Plus récemment, il y a quelques mois, on a accompagné ce paysan. Il y avait aussi la mairie de Léoncelle pour rencontrer une bonne partie de l'équipe du conseil d'administration de l'ASPAS, y compris sa directrice à l'époque, pour appuyer la demande du paysan à pas maintenir son activité de fauche parce que il a fait une croix dessus pour diverses raisons, dues notamment aux dégâts de gibier, etc., engendrés par les sangliers et tout, souhaitait quand même demander à l'ASPAS le droit de pouvoir y pâturer avec une partie de ses vaches sur une période relativement courte, sur une partie attenante à ses terres. Et donc, on a appuyé cette demande auprès de l'ASPAS, on a pu échanger sur nos points de vue. Ils nous ont dit qu'ils allaient en parler en conseil d'administration. Et c'est suite au résultat de cette décision qui nous a été notifiée par courrier par l'ASPAS, qui disait que non, finalement, ils ne souhaitaient pas permettre à ce paysan de faire pâturer ses vaches. Donc, voilà, nous, on a réagi à ça, en disant qu'on trouvait ça pas acceptable. Alors déjà, en amont, le fait qu'il ait perdu ses prêts de fauche et qu'en plus, on lui refuse ce droit, une espèce de compensation, on va dire. L'exclusion a précisé aussi, entre guillemets, l'exclusion est légale. Faut pas, on n'accuse pas l'ASPAS de... d'avoir fait des choses illégales par rapport à ce paysan, parce que ses prés de fauche, il fauchait sans droit ni titre, on appelle ça comme ça. C'était juste un accord verbal avec le propriétaire précédent. Donc il n'avait pas de moyens juridiques de faire valoir ce droit. Mais néanmoins, c'est un droit d'usage qui a pas du tout été reconnu. Et ça, voilà, nous, on trouve ça dommageable.
Ces terres sont sous quelle dénomination ? Terre agricole, terre de quel type de sol c'est ?
Au niveau cadastral, j'avoue que j'en sais rien. J'imagine terre agricole, puisque c'était des prés de fauche, quoi, mais...
Et donc, il s'agit justement de ce défaut de sécurité foncière. Mmh. Donc ça, c'est un document qui permet d'être maintenu dans une activité ancienne, qui, comme vous disiez, de droit.
Oui, en fait, c'est-à-dire quand on exerce une activité agricole, tous autant qu'on est dans les paysans, on a besoin d'un maximum de sécurité foncière, puisqu'on est sur des activités qui s'inscrivent dans le temps long. Donc après, c'est plus ou moins vrai selon les productions, mais par exemple, un arboriculteur ne va pas planter des arbres fruitiers sur des terres dont il n'est pas sûr d'avoir la sécurité foncière. Donc soit les paysans sont propriétaires, auquel cas il n'y a aucun souci, soit ils sont, donc on appelle ça fermiers, c'est-à-dire qu'ils ont un bail qui relève du droit du fermage et qui leur assure la sécurité foncière, en tout cas pour une durée de 9 ans, qui est reconductible tous les 9 ans. Sauf certains cas très particuliers, notamment quand un propriétaire veut s'installer lui-même ou l'un de ses descendants. Sinon, le paysan, à moins de faire n'importe quoi ou de ne pas travailler ses terres, a la sécurité de pouvoir y rester. Et quand on n'a pas ça, on est soumis au bon vouloir des propriétaires. Donc c'est beaucoup vrai en élevage et notamment en élevage pastoral. C'est-à-dire qu'on peut pâturer une année et l'année suivante ou du jour au lendemain sans voir interdire l'usage. On a des accords oraux, mais qui ne sont pas opposables devant des tribunaux, comme c'est le cas dans cette situation-là. Donc voilà, il n'y a aucune illégalité dans tout ça. Mais par contre, il y a des questions de légitimité des usages. Et nous, c'est quelque chose qu'on défend tout autant que les droits formels.
Ce paysan ne sentait pas venir ce problème ?
Alors non, a priori non, parce que en fait avant c'était une chasse privée, hein, ce qui n'était pas non plus. On dit pas que l'usage actuel, que l'usage précédent en tout cas était plus intéressant que l'usage actuel. Mais nous, vraiment, ce qui nous intéresse, c'est la situation des paysans. Et donc, pour répondre à la question, nous, en fait, l'ASPAS, dans le projet, un des projets, parce que les activités de l'ASPAS sont multiples, hein, là, on s'est un peu focalisé sur ces questions de réserve de vie sauvage, donc on pourra peut-être en parler un peu plus tard, qui ont à voir avec des projets de réensauvagement. L'ASPAS donc veut développer pour des raisons qui sont tout à fait entendables, hein, c'est pas la question, même si on partage pas tout là-dessus, souhaite acquérir des espaces les plus grands possibles pour permettre de protéger la biodiversité et la faune sauvage, ce à quoi on n'est pas opposé en soi, c'est vraiment sur les méthodes, etc. Et donc dans ce cas présent, quand il y a eu vente de ces terrains, le paysan ne voyait pas venir l'ASPAS, en tout cas, n'imaginait pas l'installation d'une réserve comme celle-ci.
Pour vous, au niveau local, et peut-être bien au-delà, est-ce que vous avez cette inquiétude sous réserve donc, de préserver la nature, que des exploitations soient impactées ?
Alors ça, oui, ça devient une inquiétude réelle. Et je pense que ce n'est pas un fantasme. Donc il y a d'une part ces questions-là liées au réensauvagement, c'est-à-dire à, donc à l'acquisition de terrains pour y laisser, c'est-à-dire en exclure toute activité humaine, quelle qu'elle soit, sauf quand même à noter souvent le tourisme. Donc ça, je pense qu'on peut le relever quand même, c'est-à-dire que souvent on met l'écotourisme en avant et que voilà, ça c'est quand même des questions qui sont discutables. Du coup, il y a ces questions-là, mais qui en France, il faut bien reconnaître, sont quand même mineures en termes d'impact de surface, ce qui n'est pas forcément vrai dans pas mal d'endroits du monde, avec la création de parcs nationaux, etc., où il y a l'exclusion des populations locales au nom de la protection de la nature. Ça, c'est assez bien documenté. Donc, ils sont des pratiques qui relèvent du colonialisme à l'ancienne, maintenant qui ont été décrites un peu comme du colonialisme vert par certains chercheurs. Et sinon, il y a comme on est dans une crise réelle de la biodiversité, avec l'effondrement des populations, des habitats, on fait face au réchauffement climatique. On cherche toutes les solutions possibles pour y faire face. Un bon nombre d'entre elles, font que les terres, et pas seulement les terres où il n'y a pas d'activité, y compris des terres agricoles, peuvent faire l'objet d'achats, d'acquisitions pour y faire de la compensation carbone, par exemple, pour y mettre en place les mesures de compensation quand il y a des ouvrages autoroutiers ou autres qui vont dégrader, qui vont faire disparaître des milieux et des habitats, la loi oblige à compenser, donc qui est quand même une vaste supercherie. L'idée qu'on peut compenser quelque chose qu'on a détruit, mais en tout cas, c'est ce que dit la loi, c'est-à-dire que si on détruit des habitats ou qu'on fait disparaître certaines espèces, on doit pouvoir, les opérateurs, ces ouvrages, sont tenus de remettre en place une mare ou je ne sais quoi pour compenser ça. Et sauf que faut bien le compenser quelque part. Et donc les terres agricoles peuvent faire l'objet d'acquisitions dans cette perspective-là. Et en fait, ou la compensation carbone, c'est-à-dire que pour continuer à produire comme on fait sans rien remettre en cause, l'idée, c'est de pouvoir continuer à émettre du carbone, mais comme on est censé ne pas en émettre plus que ce qu'on émet aujourd'hui, si une entreprise en émet davantage, il faut qu'elle puisse le compenser. Et ça peut passer, par exemple, par la plantation d'arbres. Et ça, pareil, les arbres, ça ne se plante pas sur un parking de supermarché, quoi. Donc, c'est pour ça que les terres, dans leur ensemble, et notamment agricoles, sont visées par l'ensemble de ces mesures, quoi. Donc, et le risque, c'est plus qu'un risque, c'est une réalité, c'est que ça va pousser à l'augmentation du prix foncier, à une spéculation foncière assez forte. Et en fait, dans ces conditions, les paysans n'auront pas les moyens, pour peu qu'ils y aient accès, d'acheter le foncier pour le sécuriser, ou des propriétaires comme c'est le cas justement avec l'ASPAS, par exemple, c'est que des propriétaires, ils voient que des associations comme celle-ci sont capables d'acheter du foncier à 3-4 fois le prix de ce qui se pratique au niveau agricole, bien évidemment, qui vont plutôt privilégier la vente pour ça que pour de l'installation agricole ou en tout cas la pérennité d'activité agricole. Donc nous, c'est ça qu'on dénonce derrière ce communiqué de presse, c'est les risques en fait qu'il y a à ce que ça prenne de l'ampleur et que ça mette en danger l'activité paysanne, quoi.
Qui décide du prix au mètre ou à l'hectare d'un terrain?
C'est la loi du marché. C'est-à-dire que
il n'y a aucune tutelle d'État pour veiller aussi à ce genre de liberté.
Alors oui et non. C'est-à-dire que rien n'empêche un propriétaire foncier de vendre son terrain à qui il veut, au prix qu'il veut. pour peu qu'ils trouvent acquéreur, bien sûr. Par contre, on a en France un outil qui est quand même, même si il a plein de dysfonctionnements, en attendant, on a un outil qui est assez intéressant, au moins dans la théorie, qui sont les SAFER, qui sont des établissements dont le rôle, en fait, est de réguler le foncier. Et en fait, si y a une vente de terrain, d'un terrain agricole, on peut faire appel à la SAFER pour lui demander de préempter. C'est-à-dire que la SAFER a le droit de se substituer, en fait, s'il y a un compromis de vente. En fait, dès qu'un compromis de vente est signé entre un vendeur et un acheteur, et qu'il s'agit de terres agricoles, avec, donc quand il y a des activités dessus, la SAFER reçoit forcément une notification. Et donc, à ce moment-là, on peut la saisir pour lui demander de préempter. Donc, elle a le droit de s'opposer au droit de propriété. Donc, c'est quand même pas négligeable. Donc, ça arrive quelquefois. Donc, ça, elle peut le faire. Et à ce moment-là, pour rétrocéder le bien à un paysan. Et ça peut même aller jusqu'à demander une révision de prix. C'est-à-dire, si le prix est jugé trop élevé par rapport à ce qui se pratique de manière courante dans la région, la SAFER peut demander une révision de prix. Donc, il y a des outils, mais qui sont quand même pas évidents à mettre en place. Et il y a plein de limites qui font que, dans la pratique, c'est quand même très dur d'utiliser ces outils-là. Donc, c'est très, très loin d'être systématique et il y a une réelle spéculation du foncier qu'on voit déjà depuis longtemps sur la question de l'urbanisation. C'est-à-dire des terres agricoles en bordure de ville, on sait que, en fait, elles prennent une valeur qui va s'accroissant avec le temps. Et en fait, c'est très dur de faire face à ça, quoi.
Et depuis cette histoire, donc, vous, en tant que Confédération paysanne, syndicat de paysans, vous vous êtes penché sur cet aspect de ces terres qui, justement, sont en train de changer de propriétaire ou de destination. Est-ce que cela éveille en vous des problématiques à venir ?
Ben oui, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure sur en fait, tout ce qui est en train de...
Mais je parle plus concrètement, est-ce que sur le territoire de la Drôme, il y a d'autres cas de figure à venir ?
C'est un peu dans la même idée, mais il y a la question du photovoltaïque au sol, par exemple, qui relève un peu aussi de ces argumentations écologiques, de transition énergétique et tout. Donc, face auquel on s'oppose aussi, parce que ça bouffe des terres agricoles, sachant qu'on pourrait les mettre ailleurs. Et après, justement, on est en train de se pencher sur la question, c'est-à-dire de voir dans quelle... parce qu'on n'est pas toujours au courant, c'est-à-dire la mise en place de ces mesures compensatoires. Donc pour l'instant, on a réalisé, on a vraiment pris conscience de ces menaces assez récemment. Donc là, on est dans la phase un peu de vigilance, quoi. Il y a eu le cas sur l'alpage de Jiboui, donc, qui est situé vers le col de Menet, là, sur la commune de Châtillon-Andiois, sur le haut. Où il y avait une indivision, là, des propriétaires en indivision qui cherchaient à vendre depuis plusieurs années, mais à un prix tel que personne ne trouvait acheteur. Et le groupement ne souhaitait pas acquérir le bien. Et au final, c'est... Alors, je sais que l'ASPAS avait eu des vues sur ce terrain, mais justement, par rapport au conflit qui sentait bien venir à acquérir des zones agricoles, ils se sont retirés, ils n'ont pas été au bout de leur démarche, ce qui est, j'ai à souligner, qui est une excellente idée. Et au final, ça a été acquis par une chef d'entreprise parisienne, donc absolument aucun lien avec ici, et qui avait eu vent de terres à vendre comme ça dans le Vercors, et voilà, qui a acquis Ouais, j'ai plus la surface en tête, mais c'est énorme. Et pour trois fois le prix du foncier courant, on va dire. Et en fait, alors, il y a eu quand même une mobilisation de la part du groupement pastoral, des différents acteurs en place, là, autour de ces questions agricoles et pastorales, et finalement, qui ont abouti avec la SAFER à la mise en place d'un... j'ai plus le terme en tête, mais en tout cas d'un engagement de la part de la nouvelle propriétaire à maintenir l'activité du groupement pastoral pendant 20 ans. C'est-à-dire, c'était lié comme engagement par rapport à l'achat du bien. Mais ce qu'on voit, c'est que, en fait, ce genre de vente risque de se généraliser. Et derrière, on ne connaît pas exactement, il faudrait creuser un peu la finalité de cet achat. Est-ce que à terme, c'est pour pouvoir y faire de la compensation? Est-ce que c'est juste une... de l'optimisation fiscale de sa part, acheter des terres à plus d'un million d'euros pour rien en faire, entre guillemets. On peut s'interroger sur la finalité, quoi. Donc oui, c'est des choses qu'on voit apparaître aujourd'hui et sur lesquelles il faut être vigilant, quoi. Surtout quand justement, comme ce dont on parlait, sur quand il n'y a pas de sécurité foncière de la part des paysans, quoi.
Juste une question, est-ce qu'il existe quand même une sécurité des destinations de terre?
Non, s'il n'y a pas de preneur agricole, donc en faisant à ce moment-là intervenir la SAFER, mais si personne, et c'est le cas, comme sur le cas de Jiboui, c'est-à-dire qu'à ce prix de vente, en fait, il n'y a aucun paysan qui pourra se permettre d'acheter ces terres-là. Économiquement, ça n'a aucun... c'est absolument pas possible. Et donc, si on n'arrive pas à mobiliser notamment la SAFER pour défendre l'usage agricole, on n'est pas en mesure de faire face, quoi. Et du coup, la terre peut changer de destination, quoi.
Vous maintenez une vigilance sur ces destinations de terre une fois acquises? Est-ce que pour un propriétaire, il a obligation d'annoncer sa destination, s'il a des projets précis?
Une fois qu'il est propriétaire, c'est la propriété privée, c'est-à-dire qu'il y fait ce qu'il veut, quoi. Donc, il peut y interdire l'agriculture ou pas. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Après, il se conforme à la législation en vigueur, mais sur la question de terrain constructible ou pas, par exemple. Mais en tout cas, une fois que ça a changé de main et que le propriétaire fait ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'une terre agricole, s'il ne veut pas qu'elle soit travaillée, pâturée, on ne peut pas l'y contraindre, quoi.
Peut-elle devenir constructible ?
C'est justement l'objet des négociations dans les plans d'occupation des sols, dans les PLU maintenant. Donc potentiellement, oui, et tout l'enjeu est là justement, de maintenir les terres non constructibles.
Est-ce que à l'avenir, justement, vous aurez d'autres contacts avec l'ASPAS pour d'autres projets qui seraient peut-être et permettre ainsi de se mettre au diapason pour ne heurter personne?
Nous, on va dire le message est clair, mais la mise en pratique est plus compliquée. Mais c'est-à-dire que nous, le message qu'on souhaitait adresser à l'ASPAS, c'est qu'on ne peut pas expulser des paysans ou mettre leur activité en danger de cette manière-là, quand bien même ça se fasse au nom de la protection de la nature. On va dire politiquement, là où on pourrait rejoindre l'ASPAS, c'est sur le fait que, en tant que paysan, syndicat paysan, on n'est pas sur une logique juste corporatiste et on se préoccupe des questions aussi sociales et environnementales. On a vraiment à cœur que nos activités soient compatibles au maximum avec les enjeux de biodiversité, de climat. C'est-à-dire que nous, notre fonction, entre guillemets, première, c'est de nourrir la population. L'idée, c'est de le faire en étant au maximum compatible avec ces enjeux-là. Et là, l'ASPAS le reconnaît bien aussi. Et nous, ce qu'on peut reconnaître de l'ASPAS, c'est ses préoccupations environnementales, etc. En fait, les méthodes et les moyens sont tout aussi importants que les objectifs affichés. Nous, c'est sur la méthode, les finalités, où on n'est pas... on a des réelles divergences, quoi.
D'ailleurs, l'une, c'est justement votre constat de ces terres agricoles qui, soi-disant, ne devaient pas être impactées par l'ASPAS, d'où cette contradiction que vous relevez. Qu'est-ce qui vous a été argumenté pour refuser définitivement ce petit terrain de 30 hectares
Alors, je pense qu'ils sont un peu embarrassés avec cette histoire de réserve de vie sauvage là sur les Ancelles, pas dans l'absolu, mais en tout cas sur les Ancelles, qui est, je pense, une situation assez compliquée pour eux. Mais ça, c'est pas notre problème. Fallait y réfléchir avant. Il y a eu d'abord une négation, il n'y a pas eu d'expulsion. Comme c'est écrit noir sur blanc sur leur site, c'est-à-dire qu'ils ne touchent pas aux terres agricoles, ils nous le répètent. En l'occurrence, ce n'était pas le cas. Et l'argument de dire qu'il n'avait pas de droit pour nous n'est pas suffisant et pas entendable. En tout cas, il n'y a pas eu de solution cherchée pour. Il n'y a pas eu de dialogue au départ avec le paysan en place. Dans ce cas précis, c'était pour eux, dans la charte des réserves de vie sauvage, c'est écrit noir sur blanc qu'il n'y a aucune activité humaine. Du coup, et comme ils ont fait appel à un certain nombre de donateurs, assez conséquent, ils ont fait un appel à dons, ils l'ont fait sur cette base, c'est-à-dire sur cette charte. Et donc si derrière, j'imagine, l'ASPAS vous le dira mieux que moi, quoi, mais derrière, finalement, ils disent il y a de l'activité agricole, c'est en contradiction avec la charte qui régit ces réserves de vie sauvage et du coup aussi peut-être ce pourquoi les donateurs ont donné de l'argent à l'ASPAS. Donc je pense que ils sont dans une situation délicate. C'est à la fois de dire que qu'ils veulent pas porter atteinte aux activités agricoles, mais vis-à-vis de leurs adhérents et notamment donateurs, c'est en contradiction. Donc je pense que c'est une situation délicate, mais bon, ça, c'est à eux de gérer.
Cet aspect donc de changement de propriétaire et de destination de terre, pour vous, c'est un sujet quand même dont vous êtes en général vigilant depuis pas mal d'années. Et ça s'est accentué encore plus depuis la pandémie d'acquisition de personnes ou de gens qui ont les moyens d'acquérir des terrains pour leur propre profit. Est-ce que ça, vous en tenez compte aussi ?
Ah oui, c'est-à-dire que là, on réagit à ce truc-là, mais c'est valable pour plein d'autres sujets. C'est-à-dire, nous, le projet, c'est l'installation du plus grand nombre de paysans et de paysannes possible. On est contre l'agrandissement de manière excessive, on va dire, toute forme d'agriculture industrielle. Que ce soit pour ces histoires avec l'ASPAS, mais sur l'urbanisation, sur de grosses entreprises qui acquièrent du foncier pour des projets d'agriculture industrielle, tout ça, vraiment, on s'y oppose en permanence. Ouais.
Je reviens un peu sur cette notion de terre agricole. Est-ce qu'il n'y en a qu'un seul type ou au niveau fiscal ou comment on peut dire foncier est-ce qu'il y a des discernements de terres agricoles bio par exemple, de terres conventionnelles, c'est-à-dire très impactées avec une chimie qui permet une production?
Non, là, c'est un classement cadastral. En fait, il y a les terres agricoles cultivables, etc. Après, il y a aussi d'autres types de classements, mais sur lesquels on va pouvoir trouver du pâturage. Et après, la distinction, elle se fera sur les pratiques, en fait, et sur le fait que des terres vont être certifiées ou pas en bio, mais la nature même des terres, et qu'après, la destination, on va dire, en fait, il n'y a pas de vocation intrinsèque des terres. C'est-à-dire qu'il y a des terres qui sont plus ou moins aptes à certaines activités que d'autres. Mais, par exemple, je pense, un des enjeux de débat qu'on pourrait avoir avec l'ASPAS, mais pas que avec l'ASPAS, hein, on focalise beaucoup. C'est sur, en fait, qu'est-ce que la société... à quoi elle décide d'affecter l'usage des terres. Et donc là se posent les enjeux de biodiversité, de vie sauvage, etc. C'est-à-dire que la terre, elle n'est pas nécessairement agricole non plus si ça n'a pas de sens d'un point de vue environnemental. Donc c'est vraiment des débats à avoir qui ont lieu en ce moment avec la définition des PLUI, c'est-à-dire voilà, à quoi on destine les terres. Mais ça, c'est des choix politiques et sociaux, c'est pas une nature intrinsèque des terres.
Justement, je viens aussi sur cet aspect des projets alimentaires de territoire. Est-ce que vous avez eu aussi des échanges avec les collectivités? Est-ce qu'il y a une réflexion? Alors, je ne sais pas si... Nous, je crois que dans le DIWA, il y a ce projet alimentaire qui est lancé depuis plus d'un an, je crois, maintenant. Est-ce qu'il existe des réflexions sur l'avenir ou les destinations de culture?
Oui, bien sûr. Enfin, que ce soit surdit ou en fait c'est là les paysans localement qui suivent ces questions-là justement pour défendre le maintien des terres agricoles quoi et ça c'est en permanence c'est une bataille permanente parce que il y a toujours des enjeux économiques qui font que on va vouloir y construire telle ou telle zone d'activité. Mais aujourd'hui, on est dans une situation telle qu'on peut pas se permettre de perdre un hectare de terre agricole, quelle qu'en soit la raison. En fait, c'est-à-dire qu'il faut trouver d'autres solutions aux enjeux économiques, mais on peut pas perdre pour des questions de souveraineté alimentaire. On ne peut pas se permettre de perdre des terres agricoles, surtout pour de l'urbanisation, quoi.
Je reviens un peu aussi sur ces terres agricoles, notamment celles qui concernent les céréales. Et on peut s'être rendu compte de cette sécheresse cette année qu'il y avait des cultures qui devenaient inappropriées par rapport à la politique de l'eau. Est-ce que, justement, ce sont ces espaces-là aussi qui seraient à remettre dans un circuit environnemental, bio, bien que ce soit assez dur à rattraper, j'imagine?
Alors, quoi qu'il en soit, sécheresse ou pas, on a de toute façon intérêt à faire en sorte que les pratiques agricoles se généralisent vers des pratiques bio, ou, en dehors de questions de certification, mais en tout cas de pratiques compatibles avec la préservation des sols, de l'eau, de la biodiversité. Donc ça, c'est sûr que... Et après, ça passe par une réflexion très globale du système agricole, c'est-à-dire arrêter les bassins spécialisés dans certaines productions qui, du coup, on le voit avec les méga-bassines, qui demandent en fait des solutions derrière qui deviennent complètement aberrantes et surréalistes. Et que, en fait, si on ne change pas, on ne relocalise pas l'alimentation et l'agriculture, fatalement, on arrive à ce genre de pratiques. Et du coup, la prise en compte des enjeux environnementaux, elle passe aussi pour ça. C'est-à-dire, ça, pour nous, on est plutôt pour chercher l'articulation la plus fine possible entre agriculture, biodiversité, etc., plutôt que, on va dire, séparer le monde entre des zones protégées avec aucune activité humaine et de l'autre côté, l'urbanisation et l'agriculture industrielle, quoi, qui résoudra absolument rien. À la question, sans parler de vouloir mettre de l'agriculture partout, à tout prix. Là encore, ce n'est pas le propos.
On peut connaître un peu plus aussi sur la Confédération Paysanne, sur son site confédérationpaysanne.fr. tout attaché. Ouais. Et puis, vous avez aussi une page Facebook hein, pour la Drôme. Christophe Morantin, merci d'être venu nous parler donc, de la Confédération paysanne de la Drôme.
Eh bien, merci.
Bonne fin de journée.
Merci.
Au revoir.